Pourquoi parler ici à Cerisy de théâtre, d'une part, de protestantisme et de Normandie, d'autre part? Le protestantisme et la Normandie, eh bien, en quelque sorte, le lieu les porte en lui-même, mais pourquoi le théâtre et comment en parler ou comment en faire? Il y a deux questions, au fond, au début de ce colloque, à son origine. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que faire du théâtre? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est qu'habiter un lieu quand ce lieu, c'est Cerisy, château protestant normand. Donc c'est d'abord ces premières scènes de la vie de château qu'on va vivre ensemble, dont je voudrais vous parler un petit peu, parce qu'ils sont au croisement de ces deux questions. Faire du théâtre, c'est ce qui rassemble presque la plupart d'entre nous, enfin la majorité d'entre nous, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Pour certains d'entre nous, le théâtre, c'est un objet de recherche, surtout lorsque cet art est ancien. Et nous en parlons, nous le lisons, nous lisons les œuvres, nous lisons les documents d'archives qui nous ont préservé ce théâtre. Et on est ici dans cette salle de colloque, justement, pour faire entendre cette parole scientifique sur l'évolution, la longue durée des arts du spectacle du XVIe siècle. Et peut-être on ira jusqu'à nos jours, on va le voir pendant ces quelques jours. Mais le faire du théâtre, ce n'est pas qu'en parler. C'est aussi, bien sûr, le vivre, c'est aussi le faire passer par d'autres voies, par des voies créatrices, par des gestes, par des mouvements. Donc faire du théâtre au sens le plus physique du terme, c'est aussi le fabriquer. Et c'est une autre manière de travailler, tout à fait convergente avec la première, mais spécifique malgré tout. Alors nous, on avait envie de faire du théâtre à Cerisy, d'en parler donc, et de parler d'un patrimoine normand en particulier, particulièrement riche, et on va en parler dans sa période ancienne, en l'occurrence le XVIe siècle, mais aussi de faire résonner dans ces murs des voix qui créent, qui recréent, qui discutent, qui fabriquent du théâtre. Et il nous a semblé que ce lieu qu'est Cerisy, c'était lui-même ce lieu multimodal qui permettait de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est faire ensemble du théâtre, parce que ce lieu, c'est un corps, alors un corps composé de nombreux bâtiments, tous convergents, qui font une unité, et en même temps tous spécifiques, non seulement dans leur architecture, et dans la manière dont nous pouvons les habiter. Vous voyez qu'on arrive à cette deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'habiter un lieu comme Cerisy? Alors, quand je suis arrivée, il y a 2 ans, pour la première fois à Cerisy, ce qui m'a vraiment frappée, c'est ce château complexe, magnifique, avec ses dépendances et des ambiances. À chaque fois, vous êtes à la laiterie, à l'étable, ici dans la bibliothèque, dans les salons, au grenier, dans les caves. Et je me suis dit, comment habiter un lieu qui est pour nous, on est vraiment très heureux en plus d'avoir ce privilège, et y faire résonner quelque chose. Les voix des scientifiques, bien sûr, les voix des chercheurs, et c'est un colloque, mais aussi d'autres voix, des voix qui sont d'ici, de Cerisy, qui vont venir nous parler, des voix d'ailleurs, et puis des voix en mouvement, des voix créatrices, les voix des jeunes acteurs, par exemple, ou des acteurs chevronnés, les voix des créateurs. Et ça a été vraiment un désir pour moi de penser à la richesse de ce lieu à travers la manière dont on peut l'habiter. Alors c'est la raison pour laquelle vous allez vivre une frustration pendant ces 4 jours, puisque faire du théâtre, on l'a dit, c'est des choses différentes, convergentes et en même temps spécifiques. Et donc il nous a semblé qu'on ne pouvait pas utiliser par exemple la création artistique comme illustration à la recherche scientifique ou inversement, c'est-à-dire soumettre l'un à l'autre, mais bien plutôt créer un dialogue. Or, vous le savez, c'est quand même très difficile de faire un processus de travail théâtral dans la même salle qu'un colloque, qui est un autre processus de travail, un processus de travail scientifique. Alors la frustration, elle est là, qui est l'occupation des lieux, de ces divers lieux du château, ensemble et séparément. Avec des moments de dialogue et puis avec des moments où chacun, où les groupes vont se croiser, vont travailler. Et cette polyphonie, vous savez, la polyphonie, c'est une musique où tout le monde chante ensemble des mélodies séparées. Et puis à la fin, ça fait soit une cacophonie formidable, soit une très belle mélodie. Alors on espère que ce sera cette mélodie, mais en tout cas, c'est ça qui nous a conduit à construire un colloque multimodal, lui aussi, à l'image du lieu, qui articule un colloque scientifique, un forum des projets internationaux, des débats, une exposition performance et une résidence création, et donc laboratoire. Et c'est ce que nous allons vous présenter maintenant. Donc je dis un mot de ce qui va clore en réalité nos travaux, en tout cas pas tout à fait clore, mais que nous présenterons vendredi après-midi, en fin d'après-midi, un forum des projets internationaux, car il faut aussi faire entendre des voix d'ailleurs, et cet événement que nous vivons s'inscrit non seulement dans un lieu spécifique, Cerisy, qu'on va essayer de mettre en valeur, mais aussi au croisement de recherches autour de nous, dans plusieurs pays, et avec des chercheurs qui vont venir nous parler de l'objet spécifique qui nous intéresse, la protestantisme, le théâtre, la Normandie, mais aussi l'Europe au XVIe siècle, et qui vont nous apporter des connaissances qu'ils travaillent par ailleurs dans des projets en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, et puis ce projet même est lié à un autre projet qui se passe en France. Donc tout ça, nous souhaiterons bien sûr vous le présenter, je n'en dis pas plus pour le moment, car il y a aussi des voix d'ici qui vont retentir, des voix qui vont venir nous parler, et on va les entendre cet après-midi, celles des collégiens de Cerisy, à l'occasion d'une exposition performance que je laisse maintenant Denis présenter.
Tiens, oui, merci Estelle. Bon, j'ai présenté assez rapidement ce projet-là qui a été de toute façon initié par Estelle, Edith, dans le cadre des partenariats avec le collège. Ce qui a eu de très intéressant, quand je suis arrivé au mois de décembre ici et qu'il y a eu une cocorde qui nous a rassemblés tous pour organiser les choses, j'ai été présenté à un élu local dont j'ai charitablement oublié le nom, mais c'est pas simplement la charité, c'est Alzheimer, qui j'étais présenté, médiéviste. Ah oui, ça sert à quelque chose. Ce qui est toujours assez gratifiant. Et alors, je lui avais répondu avec un grand sourire, mais vous savez, ce n'est pas masturbatoire. Ce qui me paraît vraiment important. Et en tant qu'enseignant, on a toujours été amené à avoir des relations avec nos étudiants. Mais avant, dans une vie antérieure, j'étais professeur de secondaire. Et quand on s'est retrouvé avec la possibilité de travailler avec les élèves du collège Edith Orgon des Jardins, qui est là, ça a été pour... Pardon ? Anne, pardon, excuse-moi. Ça viendra la prochaine fois. Ça sera un collège Anne et Edith. Non, plus sérieusement, j'ai été très heureux de voir comment on pouvait travailler avec une collègue qui en plus était une de mes anciennes étudiantes. C'était assez émouvant, je dois dire. Et après ça, la question a été... Oui, on va travailler autour de l'affaire Le Pardonneur. Alors, plusieurs d'entre vous connaissent cette histoire qui a été largement détaillée dans la thèse de Michel Rousse. Comment Le Pardonneur a voulu représenter un mystère de Job et une moralité de mariage, et s'est fait rattraper par le Parlement de Rouen, qui lui a remonté les bretelles, a demandé les textes, et a décidé d'autoriser du bout des lèvres la représentation, tout en l'interdisant de faire des annonces à son trompe, etc. Michel Rousse a identifié la moralité, l'a édité fort bien, et c'est un texte compliqué, allégorique, enfin très très rouennais 16e, où on a régulièrement des alternances de dialogues et d'insertions musicales, un petit peu comme le film qui est passé il y a quelques années, on connaît la chanson, à chaque fois des insertions musicales permettaient de commenter les choses. On a discuté du texte avec les enseignants et on est arrivé à la conclusion évidente qu'on ne pouvait pas faire jouer à des petits entre 5e et 3e une pièce avec des tas de références à des chansons qu'ils ne connaissaient pas, sur la question du mariage qui ne les préoccupe pas. Il y a eu un très beau travail de la part des collègues qui se sont dit « bon bah on ne va pas le faire tel quel, mais on va le transposer ». Et ce que vous verrez cet après-midi, c'est un travail de transposition autour de ces questions de famille, il y a encore question de mariage, et tout ce qu'on peut jouer autour des insertions lyriques et du pouvoir. Alors, je n'en dis pas plus, vous verrez à quoi ça ressemble. J'ai eu l'occasion et le plaisir d'y aller à diverses reprises et de voir comment le projet mûrissait, progressait, etc. Et je dois dire que la satisfaction du médiéviste qui travaille sur les théâtres anciens, etc., a été très grande de voir la façon dont ces jeunes se sont investis, ont intégré la chose, se la sont appropriés et arrivent à faire quelque chose, je crois, d'éminemment théâtral, moi, qui m'a réjoui, justement en faisant revivre notre XVIe siècle, ce qui est quand même à peu près l'essentiel pour nous. Je crois que si on travaille sur le XVIe, sur le théâtre, etc., c'est que c'est vivant et que c'est d'actualité. Voilà, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors cette exposition, puisque vous l'avez compris, ce sont des collégiens d'aujourd'hui qui se plongent, qui se confrontent à une comédie scandaleuse, en tout cas jugée telle en 1556, et qui fait partie du patrimoine théâtral rouennais en l'occurrence. Donc il faut comprendre aussi un peu le contexte, hein. Qu'est-ce que c'était que cette pièce, qu'est-ce que c'est que Rouen, qu'est-ce que c'est que faire du théâtre en Normandie au XVIe siècle. Donc il sera accompagné d'une exposition donc dont la conception et le commissariat ont été pris en charge par Marielle de Vlaminck, et qui nous attend dans les tables cet après-midi et que vous pourrez regarder également. Donc voix d'ailleurs et voix d'ici, mais ces voix, elles vont bien sûr résonner grâce à vous, via des débats. Je laisse à Charlotte le soin de présenter cela.
Merci. Quand Estelle m'a proposé de participer au colloque, je pense qu'on avait tous derrière la tête ce qui est arrivé à Denis récemment, hein, à quoi ça sert, qui est une question qu'on a dans la vie en général, mais même au sein de l'université, en étant 16e-iste, en n'étant pas contemporanéiste, en parlant à nos étudiants qui, et c'est tout à fait leur droit, choisissent des sujets d'études qui sont beaucoup plus contemporains. On s'interroge bien sûr sur qu'est-ce qu'on a à dire d'aujourd'hui. Quel est le dialogue qu'on peut instaurer avec le contemporain et avec nos collègues en général. Donc il y a eu tout de suite le souhait que ce colloque de spécialistes de théâtre du 15e et 16e puisse s'ouvrir donc à d'autres horizons qui nourrissent nos interrogations et par l'ouverture donc à d'autres arts, d'autres pratiques et d'autres époques. Alors il s'agira pas ici de disons de procéder à des rapprochements indus ou des amalgames qui seraient peu pertinents, mais d'articuler connaissance du passé et compréhension du présent, d'interroger l'objet théâtral dans son rapport au religieux à l'aune d'autres pratiques artistiques, et également d'interroger la dimension médiatique de l'expérience religieuse en rapport avec la dimension médiatique du spectacle qui va être largement discuté pendant le colloque scientifique. Alors ce projet, on l'a décidé de le décliner autour de trois moments, deux débats et une conférence qui sera suivie d'un débat. Donc le premier débat cet après-midi après la performance avec les collégiens, donc vers 16h30, à 16h30, pardon, avec donc Christian Bier, François Le Cercle et Isabelle Saint-Martin, et qui portera sur violence sur les images, iconoclasme et représentation blasphématoire. Donc avec ici un spécialiste, François Le Cercle, des théories de l'image et du théâtre européen de la période moderne, et une spécialiste de l'art chrétien des 19e et 20e siècles, et 21e siècle même, comme elle nous l'a dit hier. Donc il s'agira dans ce débat d'interroger les rapports entre la représentation artistique, les accusations de blasphème et d'iconoclasme, en essayant de mettre en perspective les cas propres au XVIe siècle, avec les problèmes et les débats qui se posent depuis le début des années 2000, notamment à travers le théâtre, la caricature et d'autres supports artistiques. Il s'agira donc de réfléchir à la violence sur les images, en parlant, on pourra évoquer l'iconoclasme réformé et plus généralement les débats qui mettent en cause la représentation au XVIe siècle, mais de s'intéresser aussi à la violence des images, les images qui font violence à certains sujets, en l'occurrence Dieu et ses représentants, par le biais notamment des caricatures. Donc ça, ce sera le premier débat cet après-midi. Ce soir, sur un mode conférence, donc avec Damien Mautier, qui est spécialiste de l'anthropologie des faits religieux et notamment des milieux pentecôtistes. Donc c'est une discussion avec Damien, puisque nous sommes collègues et nous subissons la co-direction du département des arts du spectacle cette année, donc nous discutons beaucoup, et avec Tiffaine aussi. Il nous a parlé notamment d'un travail qu'il avait fait autour de la question du toucher télévisuel dans les pratiques pentecôtistes, notamment aux États-Unis dans les années 50, et cette idée qu'on touchait le téléviseur et qu'on recevait à travers le téléviseur la bénédiction, enfin, il développe ça mieux ça, du prêtre, enfin de l'officiant, à l'autre bout du média télévisuel. Et ce qui nous a intéressé dans sa recherche, et aussi plus largement dans ses recherches sur le charisme aussi des officiants dans les milieux de pentecôtistes, c'est cette idée de la mise en spectacle du religieux, et des liens qu'elle pouvait avoir avec nous, le théâtre du XVIe siècle, portant sur les questions religieuses. Donc, sa conférence reviendra sur les pratiques religieuses de contact avec les images. Et en se fondant sur l'analyse de la religion comme média, il montrera que les médias et les arts de la scène sont, dans le contexte pentecôtiste, des dimensions constitutives de l'expérience religieuse. Et ça pourra nous faire réfléchir, à nous qui abordons ces questions via le théâtre, et là, d'aborder la religion comme spectacle. Enfin, vendredi après-midi, nous serons rejoints par Jean-Marie Le Gall, donc, qui arrivera demain matin. Et donc je vais le présenter rapidement puisqu'il n'était pas là hier. Il est professeur d'histoire moderne à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a étudié différents sujets de la première modernité et de la Renaissance, que ce soit les moines au XVIe siècle, l'érudition au temps des humanistes ou encore l'essor et la disparition de la barbe entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle. Donc il cherche à renouveler, disons, certaines l'approche de ces périodes à travers des objets qui n'avaient pas forcément été étudiés de cette manière. Et l'objet du débat, ce sera un livre qu'il a écrit, co-écrit avec Denis Crouzet, qui est paru en 2015, juste après les attentats de Charlie, qui s'appelle « Au péril des guerres de religion » et qui est un court ouvrage dans lequel ces deux historiens de la Renaissance cherchaient à éclairer les événements de 2015 à l'aune de des guerres de religion du XVIe siècle, en se demandant ce que des historiens du XVIe siècle pouvaient avoir à nous dire aujourd'hui dans cette situation. Et donc le débat portera déjà sur certains traits transversaux des guerres de religion, notamment autour de la question du martyr, du rôle de l'État, enfin on en reparlera. Et il s'intéressera aussi sur les questions de méthode que pose le parallèle entre les époques. Parce que on le verra avec lui, cet ouvrage n'est pas sans poser question sur quel doit être notre positionnement. Est-ce que nous devons être des prescripteurs du temps présent, du fait que nous connaîtrions le passé? Et donc c'est des discussions qui nous semblent stimulantes. Alors, et puis peut-être nous interrogerons la question de la place de l'historien, puisque alors nous avons un historien dans le colloque, mais c'est un colloque plutôt qui vient d'ailleurs, de la littérature et du théâtre, et quelle peut être notre place à nous dans ces débats. Voilà.
Merci beaucoup, Charlotte. Alors, puisqu'on vient de parler de nouveau de théâtre, on va maintenant présenter la résidence.
Cette résidence réunit 12 étudiants, 8 étudiants qui viennent de l'Université Paris-Nanterre, qui sont en master théâtre, et 4 étudiants qui viennent de l'Université de Caen et qui sont en licence 2. Et elle est coordonnée par Michel Cerda, metteur en scène. Metteur en scène plutôt habitué à travailler sur des textes contemporains, même s'il a aussi parfois fait des incursions vers le XVIe siècle en travaillant sur les Juifs de Robert Garnier notamment, qui coordonne donc cette résidence, qui sera aussi animée par Mario Longtin et Marie Boyic-Gironès. Je vais y revenir. Cette résidence donc va se dérouler sur 3 jours et demi, les 3 jours du colloque, et puis en fait on a déjà commencé hier après-midi à travailler. Et elle s'articulera autour de 2 textes sur lesquels donc, on va travailler plus spécifiquement. Le Maître d'école, qui est une farce joyeuse du recueil de Rouen, du milieu du XVIe siècle, et la Comédie du Pape Malade, qui date de 1561, qu'on attribue à Conrad Badius. Donc une pièce rouennaise, une pièce genevoise, avec des enjeux différents, mais qui se retrouvent donc autour de cette question de la polémique religieuse. On a décidé de travailler sur des variations, c'est-à-dire que lors de la restitution finale, vous verrez plusieurs tentatives de travailler sur ces mêmes textes. Et il y aura 2 groupes en parallèle, un groupe qui travaillera avec Michel Cerda, un autre qui travaillera avec Mario et Marie, donc sur les mêmes textes, sur ces 2 textes.
Voilà, alors ce qui nous intéressait, c'était de faire d'abord une proposition à Michel Cerda, qui, comme vous l'a dit Tiffaine, n'est pas du tout spécialiste de ces théâtres-là, en rapport de curiosité, mais pas vraiment d'expérience. Il est plutôt un spécialiste de théâtre contemporain, voire de textes très contemporains, et en fait, par là, il y a un lien, en un sens, avec ces textes où nous avons l'habitude de travailler, parce que le texte très contemporain résiste à la mise en scène tout autant que les pièces du XVIe siècle. On n'a pas les conventions, on n'a pas les clés pour les mettre en scène, aussi bien pour mettre en scène, je ne sais pas, un texte de Novarina, puisque Novarina va arriver cet après-midi, qu'une farce joyeuse du milieu du XVIe siècle, on ne sait pas comment faire. Et donc, le travail va commencer par ça, en fait. Que faire de cette résistance? Jusqu'à quel point ça résiste? Comment on va pouvoir faire théâtre à partir de cette résistance? Et voilà, comment faire théâtre de cette incompréhension-là? C'est pour citer Michel Sarda, qui citait lui-même une comédienne qui avait travaillé avec lui. Il disait « Là où il y a de l'incompréhensible, il y a du théâtre, où le théâtre peut se faire. » Alors, si tu veux...
Oui, et puis là aussi où il y a de l'étrange, il y a du contemporain. C'est aussi ça dont parlait Michel hier, c'est-à-dire que finalement, pour casser la surface lisse du contemporain dans lequel on est tous finalement et qui nous entoure et dans lequel on est comme absorbé, parfois le détour par l'inactuel ou l'incompréhensible est un bon moyen et plus adapté même à une saisie de ce qui est réellement en jeu dans notre présent.
Alors, toute la question, c'est de savoir comment entrer dans ces œuvres hein, qui résistent, qu'on ne comprend pas. Alors, et l'intérêt pour nous, c'est justement de faire venir des gens dont la pratique théâtrale fait partie de leur nature, en quelque sorte. Et on y entre de manière très simple, très évidente, en quelque sorte, par l'expérience du corps, par la voix. Et nous, en tant qu'observateurs, on voit se dégager des principes, presque peut-être une méthode, pour voir comment voilà, on peut faire théâtre de ça. Premiers éléments, la matière sonore, le rythme, ces choses comme ça qui sont une manière d'accéder au sens et aux situations de manière très concrète. Et on voit en tant qu'observateur de manière extrêmement, extrêmement pertinente.
Oui, et ça nous révèle aussi à nous comme chercheurs, parce que nous sommes observateurs et chercheurs sur ce théâtre, des dimensions actives, efficaces de ce théâtre que peut-être on perçoit moins quand on travaille en historien sur ces textes, puisqu'on voit comment des lecteurs d'aujourd'hui qui n'ont pas accès immédiatement au sens, parce que des mots leur résistent, parce que des éléments contextuels leur manquent, perçoivent dans la langue, dans son écriture, sa matière poétique, sonore, rythmique, des éléments de dramaturgie qu'il pressente, sans même avoir les éléments pour les comprendre. Donc vraiment, il y a dans ce texte une dimension performative, inscrite, efficace, immédiatement, même devant un public de non-connaisseurs. Et ça, c'était une expérience qu'on a faite hier après-midi qui était très stimulante et intéressante.
Alors, au-delà des œuvres, cette résidence, ce laboratoire plus exactement, est aussi une manière d'expérimenter l'action des œuvres, leur intention, enfin, d'expérimenter leur performativité. C'est-à-dire que, en fait, ils nous intéressent moins, ça les intéresse moins, si vous voulez, de remettre en scène ces textes-là, qu'essayer de réfléchir à ce qu'est un théâtre de propagande. Qu'est-ce que c'est que faire de la propagande par le théâtre? Qu'est-ce que ça veut dire que propager théâtralement des idées?
Et l'enjeu, ça va être aussi d'habiter ensemble ce lieu, comme disait Estelle, de ne pas travailler en parallèle, séparément, mais bien d'être ensemble en train de faire une expérimentation par des moyens différents, mais malgré tout la même expérimentation. Et donc, la situation de ce colloque devrait aussi être travaillée par cette résidence. Il va s'agir aussi de propager, de travailler sur cette action de propagation depuis la laiterie ou le grenier où nous travaillerons vers votre lieu de travail scientifique, votre lieu du colloque. Comment le théâtre peut prendre place, prendre position dans un espace, depuis une cellule un peu retirée dans laquelle il travaille. Il y a là quelque chose qui se joue dans la situation du colloque, qui rejoue ce qui peut être en question dans cette action polémique du théâtre, cette action du théâtre dans un cadre polémique.
Voilà, et sans vouloir déflorer tout à fait le déroulement, vous avez bien compris que tout ne va pas se jouer simplement dans la restitution des œuvres. Mais attendez-vous à une propagation, une diffusion un peu intempestive et imprévisible. Nous-mêmes, ouais. Nous ne savons pas.
Puisque donc l'enjeu de cette résidence, ça n'est pas simplement de proposer une restitution finale, mais c'est un processus, comme vous l'avez compris, un processus que nous vous invitons à suivre sous la forme d'une sorte de feuilleton dont cette présentation est le premier acte, si on veut, et que vous pourrez retrouver demain pour une sorte de point d'étape. Donc Fabien et moi vous transmettrons quelque chose de ce que nous avons perçu dans le travail de ces deux journées qui se seront écoulées, et puis finalement après ce qu'on appelle la restitution finale, un débat, une discussion dans laquelle vous serez aussi invité à intervenir, bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup. Donc vous voyez plein de choses qui vont se passer dans le château et dans cette salle, bien sûr, le colloque. Alors un dernier mot sur ce colloque et sur ces enjeux, donc réforme, théâtre, Normandie, ce sont évidemment les... Il n'y a pas de quatre points cardinaux, le quatrième c'est Cerisy, mais ce sont les points que nous allons essayer de relier ensemble. Pourquoi s'intéresser à ce passé-là ? En 2018, pourquoi s'intéresser à la réforme d'il y a 500 ans ? Alors si on était très simple, on dirait d'abord parce qu'on est dans un âge de la commémoration. Et de fait, depuis l'année dernière, 1517-2017, les commémorations sur le protestantisme, sur sa diffusion, sur son impact social, politique, culturel, artistique, etc., se sont multipliées. Mais nous ne voulions pas tout à fait faire la même chose ou ne pas tout à fait rentrer dans cette réflexion sur cette réforme et voir la réforme par un autre regard, ou par un regard en tout cas particulier, qui est celui de décréation, qu'elle soit engendrée, suscitée, ou qu'elle a coloré, en quelque sorte, ou nuancé. Alors, pour rapidement situer les choses, bien sûr, la réforme luthérienne, calviniste, la réforme protestante qui se développe au XVIe siècle est à la fois un événement inouï et en même temps, au fond, quelque chose que les gens connaissent déjà depuis très longtemps, puisqu'elle se met dans le sillage d'un très long temps de réformes. 400 ans avant, il y avait déjà des réformes en quelque sorte, mais qu'elle va se singulariser. Les réformes religieuses, la question du rapport aux institutions, des sociétés, donc aux institutions ecclésiastiques, des sociétés européennes, les critiques, les scandales, les mouvements dissidents qui parfois conduisent aux guerres civiles n'ont cessé de se propager en Europe au moins depuis le XIIe siècle. Donc au XVIe siècle, a priori, rien de singulier à voir Martin Luther attaquer l'institution ecclésiastique en 1517 en affichant ses 95 thèses à Wittenberg. Et en même temps, cette réforme-là, elle est différente. Bien sûr, comme les autres, elle est gouvernée, elle est dirigée par un leader charismatique qui va bientôt faire des petits, si j'ose dire, et Luther va être suivi par d'autres leaders, notamment des leaders français comme Calvin, qui vont se réfugier autour du lac Clément, et cela va du coup plonger aussi, enfin mettre en tout cas l'espace francophone dans une tension particulière. Donc des leaders charismatiques, des revendications qui aboutissent à des conflits, et c'est la violence de ces conflits qui, au-delà d'une région, la réforme ne s'est pas contentée, si j'ose dire, de rester autour de Luther en Allemagne ou de rester autour d'autres leaders. Ces mouvements régionaux vont converger pour faire de toute l'Europe un champ de bataille. Et c'est cet aspect à la fois local, et nous allons nous intéresser notamment à la question normande, et cet aspect global de la réforme qui, évidemment, nous a intéressés. Alors, dans l'espace qui va nous intéresser, la longue histoire du protestantisme, c'est une longue histoire de développement, c'est une longue histoire de refus, c'est aussi une longue histoire de création, je vais en dire un mot tout de suite. En ce qui concerne l'espace français, par exemple, dès les années 1520, quelques années après la
les premières révoltes, je dirais, inspirées par Luther, on a tout de suite des pièces de théâtre qui prennent position, on va y revenir à l'instant, pour propager, pour diffuser les nouvelles idées très critiques envers l'institution catholique, donc ces nouvelles idées religieuses. Et d'abord, ces idées et ces pièces et ces créations sont plutôt bien reçues. En tout cas, elles sont reçues avec curiosité. Elles remportent un grand succès auprès des opinions publiques jusqu'à des moments de basculement. Et pour la France, un des moments de basculement dans les années 1530, c'est ce qu'on appelle l'affaire des placards. C'est-à-dire une affaire médiatique extraordinairement bien menée et qui conduit dans une certaine mesure à la catastrophe. Des commandos protestants, si l'on veut, souhaitant bouleverser les opinions publiques, vont placarder de très violentes critiques partout dans les villes, en particulier dans les villes du royaume, alors à Paris, mais aussi à Rouen, mais aussi à Lyon, et jusque sur la porte de la chambre à coucher de François Ier, qui, on le comprend, se sent un peu agressé dans son intimité par cette manifestation médiatique intempestive. Et la répression se met alors à s'abattre dur sur les protestants, avec des bûchers qui flambent, des condamnations et une communauté protestante française qui se met alors à fuir et qui va se retrouver en exil pour une partie d'entre elles, notamment à Genève. Donc c'est aussi un des aspects que les comédiens vont travailler avec ces pièces françaises, mais qui en quelque sorte viennent d'ailleurs de cet exil genevois, comme la comédie du pape malade dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors bien sûr, dans les décennies qui suivent, il y a des moments de réconciliation, en tout cas des tentatives, mais qui échouent jusqu'au début des guerres civiles en 1562, qui vont durer 30 ans, jusqu'à la fin du siècle. Donc c'est toute l'histoire du XVIe siècle, en fait, qui est travaillée par ce mouvement, qui est un mouvement de renouvellement, qui est un mouvement de révolution, et qui est un mouvement, bien sûr, ponctué par des crises et qui vont aller jusqu'au conflit. Alors les arts aiment et n'aiment pas les crises. Les arts, et surtout les arts du spectacle, les arts de la scène, qui sont des arts publics, se nourrissent des crises, y participent et en sont parfois les victimes. Et c'est cette question du comment prend-on position face à la réforme et à ce qu'elle implique, en particulier dans les spectacles, qui nous intéresse. Prendre position, ça veut dire s'engager. Et bien sûr, on va parler, on va travailler, on va faire entendre des spectacles militants tels que on vous les a présentés tout à l'heure, comme la comédie du pape malade ou la farce du maître d'école, donc qui est une farce normande, ou d'autres encore dont nous parlerons. Militer, propager les nouvelles idées ou au contraire militer contre elles. Mais ces scènes en lutte ne sont pas les seules. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qui illustre la Normandie, cet espace particulièrement riche du point de vue théâtral. Il y a aussi une grande partie de la production théâtrale normande qui réagit simplement, qui réagit à cette actualité qui est l'actualité du protestantisme. On ne s'engage pas, ni les acteurs, ni le public, mais on parle du protestantisme, soit pour s'en moquer, soit pour afficher une compréhension, un intérêt, pour colorer une pensée religieuse, pour faire rire, etc. Donc la question de la crise qui agite cette époque va se retrouver aussi de manière moins dramatique, si j'ose dire, dans ces autres formes de théâtre que l'on retrouve à Rouen. Et puis le théâtre, c'est aussi une forme d'information, de communication, de représentation, et donc on va avoir non seulement au XVIe siècle, mais ensuite des traditions théâtrales qui vont garder la mémoire de ces périodes, la mémoire par exemple de la Saint-Barthélemy, tout de suite après l'événement ou bien plus tard, et on va en entendre parler justement ce matin. Alors tout cela, vous me direz pourquoi la Normandie, bien sûr, Cerisy, mais encore. Eh bien parce qu'avec la Normandie, on est dans un espace qui est à la fois singulier et exemplaire. Singulier d'abord à cause de ce creuset normand. On n'est pas tout à fait n'importe où. Ici, en Normandie, on est dans une région qui a une identité particulière. C'est d'abord une identité religieuse. Et ça nous intéresse évidemment, puisqu'on va parler de religion. L'identité religieuse normande depuis très longtemps, c'est une identité qui est notamment tournée vers des dévotions particulières, à la Vierge Marie. Et on se demande bien comment cette dévotion à la Vierge Marie va faire bon ou mauvais ménage avec cette nouvelle religion qui bannit le culte des saints et qui bannit le culte de la Vierge, la Réforme. Donc, un terreau et un terroir religieux particulier, mais c'est aussi une identité, cette Normandie a aussi une identité culturelle, une identité artistique particulière avec des associations poétiques, des associations théâtrales, des compagnies qui travaillent dans les grandes villes, et notamment Rouen, et une véritable richesse, c'est une des grandes régions capitales, si on peut dire, de l'art théâtral de cette époque. Qu'est-ce qui se passe dans ce creuset rouennais, dans ce creuset normand, plus généralement, quels sont ces liens qui vont se nouer entre la crise protestante et cette richesse des arts du spectacle. Mais la Normandie n'est pas une région enclavée, même si, évidemment, ça ne se voit pas depuis hier, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés avec les trains. Bon, on espère pouvoir repartir, mais on y est pour l'instant et on y reste. Ce n'est pas une région enclavée, c'est une interface. Région maritime, évidemment, région donc liée à des espaces où le protestantisme se diffuse, il se propage, il trouble les sociétés. C'est l'espace britannique, bien sûr. C'est l'espace aussi des Pays-Bas, où grâce à la Manche et à la mer du Nord, on va avoir une circulation des textes, une circulation des troupes, une circulation des publics, une circulation des idées. Et cette circulation n'est pas seulement tournée vers la mer et vers l'ouest, elle passe aussi par les influences qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Suisse, et on va trouver, du coup, de ce croisé normand sert aussi de zone de contact, ce qui va nous permettre d'essayer de comparer un petit peu ces diverses manières de faire parler, je dirais, ou de parler, ou de représenter, ou de faire théâtre, j'aime bien cette expression, à partir de ces crises contemporaines dans les différents espaces européens. Et on ne fait pas théâtre en Normandie du protestantisme ou du catholicisme comme on fait théâtre de ces mêmes choses ailleurs. Donc ce sont ces réflexions que nous allons développer devant vous. Et donc nous vous proposons, pour reprendre votre souffle et pour qu'on se disperse aussi dans le château, une petite pause maintenant, avant d'entendre notre premier conférencier, Jelle Koopmans, qui va nous parler justement, est-ce qu'on peut parler d'acteurs, d'auteurs, de pièces protestantes.